Salut à tous, c'est l'Atelier des médias qui reprend après quelques semaines d'interruption. Je m'appelle Steven Jambot et je suis de retour au micro de RFI pour une nouvelle saison d'exploration du monde des médias et du numérique. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. Vu le contexte économique, ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance de nouveaux médias. Et pourtant, des entrepreneurs ambitieux, un peu rêveurs ou parfois un peu fous, font le pari d'en lancer. J'ai choisi cette semaine de donner la parole à Yvan Saint-Jour, qui a lancé Yggdrasil, un magazine consacré à la collapsologie. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais tout de suite, prenons la direction de Bruxelles, où s'apprête à débarquer à la télévision la première chaîne d'information en continu de Belgique. Elle s'appelle LN24, pour Les News 24, et j'ai téléphoné à un de ses cofondateurs.
RFI.
Allô.
Bonjour Martin Buxan.
Bonjour Steven Jambot.
Vous êtes journaliste politique et éditorialiste et la dernière fois que vous êtes intervenu dans l'Atelier des médias, c'était en octobre 2011. Vous étiez alors le seul journaliste wallon dans une rédaction flamande. Vous étiez passé de la Libre Belgique à De Morgen. Ensuite, vous êtes passé par RTL TVI, L'Écho, Bel RTL et vous vous disiez alors chasseur de news. Et de chasseur de news, maintenant, vous lancez une chaîne d'information en continu, la première en Belgique. Elle s'appelle LN24. Une chaîne qui est déjà active depuis plusieurs mois sur Internet, mais la télé débarque le 2 septembre prochain, c'est lundi. Dites-nous dans quelle ambiance vous vivez actuellement.
Alors, ça c'est très clair, l'ambiance actuellement c'est le stress, quoi. C'est la pression, c'est les derniers préparatifs, la dernière ligne droite vers la mise à l'antenne d'un produit sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans quasiment. Ça va de imaginer le produit, imaginer la télé, jusqu'à la levée de fonds en passant par la structure juridique, hein, constituer la société. Et puis il y a eu le recrutement, on a recruté plus d'une vingtaine, 20 journalistes, 25 collaborateurs, puis on est 40 maintenant avec les techniciens, etc. Donc former l'équipe, produire en digital, voilà. Et puis maintenant l'aboutissement de tout ça, c'est un des aboutissements, puisqu'après on lancera une radio en début 2020. Donc un des aboutissements, c'est effectivement la semaine prochaine, lundi 20h, on allume la télévision et c'est parti pour l'aventure.
Alors, vous avez justement prévu une grande soirée de lancement à 20h depuis le Parlement européen. Pourquoi ce lieu pour lancer une chaîne de télévision en Belgique?
Alors, c'est très simple, c'est parce qu'on a la chance en Belgique d'être au cœur, c'est la capitale de l'Europe, vous savez, Bruxelles, on est au cœur de l'Europe et ça n'intéresse personne. Alors, on a voulu justement casser un peu cette dynamique négative qui fait et qui dit et qui prétend à tort, selon nous, que l'Europe, ça embête tout le monde et ça n'intéresse personne. On sait que l'impact des décisions européennes, justement, sur le citoyen français, européen, belge, etc., c'est énorme. Et donc, on a voulu montrer, aller au cœur du cénacle de la démocratie européenne et lancer ça, un message fort depuis le Parlement européen, avec une grande soirée, une émission en direct depuis les studios du Parlement européen, en duplex avec nos propres studios. On est bruxellois, on est belge, on est francophone, mais on est aussi avant tout tous européens.
Alors on attend des responsables politiques de premier plan, si j'ai bien compris, des personnalités, vous savez déjà qui?
Alors il y aura la première interview du président du Parlement européen notamment. On aura aussi en plateau le nouveau commissaire européen désigné par la Belgique, et le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. On aura Ilham Kadri, qui est la CEO d'une grande entreprise Solvay. On aura le ministre des médias. Et puis dans la soirée, il y aura évidemment tout ce que compte, si vous voulez, j'aime pas trop cette expression, mais le gratin politico-économico-culturel belge, européen. Alors on a évidemment nos chroniqueurs français aussi, donc Patrick Poivre d'Arvor, Christine Ockrent, qui seront présents en plateau pour cette émission de lancement et qui seront dans la première matinale le 3 au matin, qui interviendront, puisque vous savez qu'ils interviendront régulièrement, mais là ils seront là physiquement le 3 pour symboliquement donner le coup d'envoi aussi de cette grande aventure.
Mais pourquoi Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor?
Alors on trouvait que c'était vraiment des personnages qui étaient... vous savez que les Belges francophones sont naturellement tournés vers l'information. Je veux dire, il y a énormément de francophones qui sont biberonnés à l'actualité française, qui chaque jour après les journaux télévisés belges regardent les journaux télévisés français, que ce soit France 2 ou TF1. Donc c'est un bassin naturel de d'actualité vers lequel on se tourne. Tout le monde, on a grandi aussi avec les PPDA, avec les Christine Ockrent. Alors avoir quelqu'un comme Chris, allez, je prends le cas de Christine O'Krein, par exemple, c'est fantastique parce qu'elle est très impliquée dans tout le processus depuis le début. Elle a une expertise sur ce qui est international et européen qui est énorme. Et nous, on veut vraiment l'employer. Vous savez que les journalistes qu'on a recrutés, on a la rédaction probablement la plus jeune de Belgique, donc des très jeunes, très très jeunes journalistes qu'on forme. Mais ils sont nés avec des, j'ai l'habitude de dire qu'ils sont un peu nés avec des iPhones à la place des mains. Donc au niveau technique, au niveau prise d'image, etc., ils sont fantastiques, hein, très créatifs. Et nous, on veut faire un produit cohérent, on veut faire matcher ça avec l'expérience de gens comme moi au niveau belge, de gens comme Christine O'Krein, comme mon collègue Johan Condates, qui a une grande, qui dirigeait l'Écho, donc un grand journal économique et qui a une expertise économico-financière. Donc, on veut nourrir véritablement tous ces jeunes journalistes, les faire grandir, faire naître une génération LN24, des nouveaux visages, ouais, c'est ça, c'est super enthousiasmant. On a commencé en digital, en Facebook, etc. On fait le chemin inverse, on va vers la télévision, donc on fait le chemin un peu inverse des mastodontes télévisuels qui vont à contre-courant et à reculons parfois un peu vers le digital. Ben nous, on prend le chemin inverse et puis après on ira vers la radio et puis Dieu seul sait où on s'arrêtera, hein, Steven.
Alors on va en reparler. Au niveau des contenus, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir au quotidien sur LN24 en Belgique?
Alors, au niveau des contenus, ce qui est très clair, c'est que nous, on a pour ambition de délivrer une information de qualité, qualitative. On a conscience aussi que nos moyens sont, on est très bien capitalisé, on a des actionnaires très portants, etc. Mais on reste une petite structure face aux mastodontes. Vous savez, le duopole classique en Belgique francophone, c'est la grosse télévision privée RTL, hein, luxembourgeoise, et la télévision publique, la RTBF, qui font du travail de qualité, elles aussi, mais qui ont des moyens qui sont vraiment sans commune mesure avec les nôtres. Hein. Donc nous, on sera en tout et pour tout, au départ, une petite cinquantaine. Donc on va devoir faire des choix. Ceci veut dire qu'on doit poser des choix. On ne saura pas tout faire, Steven, mais ce qu'on va faire, on le fera bien. Alors, nos lignes directrices, c'est évidemment de l'information de qualité. C'est la priorité à la politique et à l'économie, notamment, mais on couvrira aussi la culture, le sport, tout ce qui est aspect sport-business, hein, etc. Alors, quand je dis politique, c'est la politique avec un grand P, c'est que notre richesse, notre trésor, c'est qu'on a énormément de temps d'antenne disponible, finalement, puisqu'on diffusera, on produira de 6h30 du matin à 21h tous les jours. Et donc, on a énormément de place pour tout ce qui est pédagogie, didactique, explicatif, à l'heure où, justement, les gens prétendent que la politique n'intéresse plus personne. On est persuadé du contraire. Donc, il y a des mobilisations citoyennes incroyables, que ce soit en matière d'environnement, des contestations, tout ça. Donc, on veut vraiment redonner aussi un espace au débat, hein, un espace à la parole politique, comme je disais, au sens large, donc le débat d'idées. Donc, il y aura énormément ça de talk. Hein, donc, voilà, c'est une tradition qu'on n'a pas, enfin, du moins qu'on a beaucoup moins côté belge que côté français. Alors, j'ai l'habitude de le dire avec un petit sourire. C'est vrai que chez vous, en France, parfois, on met 1 euro dans le jukebox d'un expert et puis il tourne pendant 2 heures. Avec brio, hein, parce qu'il y a une tradition, un art de la rhétorique qu'on n'a peut-être pas encore forcément, on n'a pas cette culture-là parfois en Belgique, mais nous, on veut la développer, on pense qu'on n'est pas plus idiots que les Français, on va y arriver.
Alors c'est intéressant, et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous lancez une chaîne d'information continue et qu'on a l'impression que vous voulez concilier à la fois la liberté de ton que revendiquent les journalistes, mais également la liberté de temps que permet justement un Internet et un Facebook Live et que vous souhaitez également avoir sur l'antenne, c'est-à-dire vous permettre de faire une interview politique qui ne dure pas 8 minutes ou 10 minutes comme les cases que vous aviez lorsque vous faisiez des interviews politiques à la radio, c'est ça ?
Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, ça fait 6 ans que je menais l'interview radio sur RTL la plus écoutée, mais j'étais cantonné à 7 minutes. Donc, en 7 minutes, forcément, vous devez soit vous contenter d'être de langue de bois, soit être ultra agressif pour obtenir vos réponses. Donc, ici, c'est même pas du simple au double, c'est du simple au triple. J'aurai 17, 18 minutes d'interview le matin au créneau le plus écouté, donc à 7h20, ce qui est vraiment incroyable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est un exercice tout à fait différent. On a le temps de faire monter l'interview, on a le temps de revenir sur certains points. Donc, on peut tirer beaucoup plus. Je pense qu'on peut. L'exercice est beaucoup plus complet, d'une part, mais il est aussi plus intéressant parce qu'on rentre dans le fond des choses. Et puis, c'est un peu l'ambition qu'on a de manière générale ici à LN24, c'est de vraiment aller au fond des choses, aller au fond des problématiques, voilà, et sur tous les terrains, être le plus complet, le plus pédagogique et le plus pointu possible, quoi. Les terrains qu'on aura choisis, encore une fois, on va pas traiter du moindre chien écrasé qui traverse la rue et qui malheureusement se fait choper par une voiture. Ça, on n'en parlera pas parce qu'on mettra nos forces journalistiques autre part, quoi.
LN24, pour l'instant, ne se pense que francophone et pas du tout néerlandophone.
Alors là, c'est une bonne question, Steven. Pour l'instant, il ne se pense que francophone, mais vous savez qu'on est dans un pays, effectivement, où il y a plus de la moitié de la population qui est flamande. Donc, je pense que ça a du sens, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, penser à un produit belge, oui.
Mais il faudra sans doute plus de moyens, parce que vous l'avez dit, effectivement, votre première levée de fonds, donc c'est 4,5 millions d'euros, c'est ça. Ça vous permet de vivre jusqu'à quand ?
On a 2 ans de visibilité, Steven. On a 2 ans de visibilité, ce qui est quand même suffisant. Les premiers retours de notre régie publicitaire sont excellents. Le pays travaille vraiment bien. Donc on est relativement confiant parce que le marché attendait ça. Il n'y avait pas cette offre. En fait, c'est ça qui est important, je pense, de passer ici comme message sur RFI aussi à l'étranger. Ce qui peut paraître tout à fait normal côté français ne l'est pas du tout côté belge puisqu'on était une sorte d'île qui vivait sans chaîne d'information du tout, si vous voulez. Donc, les Suisses francophones ont leur chaîne d'information. Les Norvégiens, vous en avez 3-4, je pense, en France. En Belgique, il n'y en avait pas. Et donc, on vient vraiment combler un trou sur le marché de l'information, sur le marché journalistique belge.
Alors, vous faites un pari. Comment allez-vous mesurer, justement, votre réussite ?
Alors, comment on va mesurer notre réussite ? D'une manière très mécanique, d'une part, il y aura l'audience, hein. Nous, on n'a pas besoin de faire énormément d'audience puisque on n'est pas une chaîne généraliste. Donc ça, c'est déjà un point. On aura réussi notre pari à partir du moment où on sortira un produit journalistique cohérent et qualitatif et en ligne avec nos attentes. C'est vrai qu'on a des ambitions qui sont très hautes, notamment en termes de grille. Ça, je peux vous les détailler un peu plus si vous voulez, mais c'est ça, donc être en ligne avec nos attentes et les espoirs qui ont été passés en nous. On a suscité énormément d'espoirs. Il y a aussi un peu de, je suis pas dans le monde des bisounours. Il y a aussi du scepticisme aussi des gens qui se disent mais comment vont-ils pouvoir réaliser leurs promesses, combler autant de d'attentes et d'espoirs finalement, hein, parce que il y a vraiment un espoir de autre chose, hein, d'attente de produits de qualité, de produits d'information de qualité au niveau de l'information. Et donc, si on parvient à remplir ces objectifs-là, ben on sera des personnes heureuses et puis on aura vraiment rempli notre challenge. Vous savez, ça va être aussi, et ça, je pense qu'il faut le dire aussi, ça va au-delà, je pense, ça va au-delà de d'être rentable, etc. Je pense que, comme je vous le disais là, il y a une minute, il y avait un vide journalistique côté francophone belge, côté belge, et on vient la remplir. Et c'est quelque part. Alors, il faut vraiment garder les pieds sur terre. On n'est pas non plus, on ne va pas nous décerner le prix Nobel, mais il y avait aussi un vide démocratique, si vous voulez. Quand vous êtes dans un duopole et que notamment une des chaînes, certains font de moins en moins d'informations de qualité. Je pense qu'il y a une vraie attente aussi d'un espace de débat démocratique. Hein. Et je ne parle pas que du politique, mais je parle de pouvoir. On va avoir des magazines qui vont traiter de la science, de la santé, de l'avenir, des choses qui vont traiter du business, de l'actualité européenne, comme je vous le disais aussi au départ. Donc, c'est vraiment tous azimuts. On veut tirer les gens, tirer le débat vers le haut, tirer le débat démocratique et la société vers le haut. Voilà. Et montrer aussi les choses qui vont bien. Alors, on n'est pas naïfs non plus. On parlera des choses qui vont mal. Mais quand il y a des solutions aussi, je pense qu'on aura à cœur d'en parler, de mettre le doigt dessus.
On vous a longtemps collé une étiquette, une réputation en tout cas d'emmerdeur. Et je lisais une interview de Christine O'Crane qui, en parlant de LN24, disait qu'il allait falloir serrer les dents. Vous êtes prêt à serrer les dents ?
Oui, je pense que de toute façon, c'est les meilleurs braconniers qui font les plus grands gardes-chasse. Donc, c'est vrai que j'ai passé des années à emmerder les... passez-moi l'expression, mais là, je suis fatigué. Je travaille 16 heures par jour.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on est prêt. On serre les dents, on mord sur notre chic. J'ai envie aussi de rendre hommage à, il y a les trois fondateurs, il y a Boris Portnoy, Yannick Condates et moi. Donc on a lancé cette aventure. Mais je veux aussi souligner le degré de motivation, d'enthousiasme et la pêche qu'ont tous ces jeunes et ces moins jeunes qui nous ont rejoints, dont certains avaient des boulots fixes et stables dans des chouettes grandes boîtes. Mais qui se sont dit, voilà, on y va, quoi. On veut lancer le truc, on veut créer quelque chose, on veut partir d'une page blanche et essayer de bousculer les codes et bousculer le paysage pépères médiatiques belges, bah, ils sont là à nos côtés. Et on est, enfin, je vous encourage toutes et toutes à passer nous voir, nous dire bonjour, et vous verrez, c'est un enthousiasme qui est communicatif.
Quoi. C'est ce que j'allais dire, si des auditeurs ont envie de vous rejoindre ou devenir peut-être correspondant à l'international de LN24, comment vous contacter?
Ah ben voilà, une seule adresse, redaction@ln24.be. Bon. Et ça aboutit chez nous. Effectivement, on cherche des correspondants, des gens qui ont envie de participer à l'aventure. Ils nous envoient leur CV, leur mail, lettre de motivation, et puis c'est parti, quoi. Si le profil match avec notre enthousiasme et notre envie de qualité, info de qualité, ben, on répondra présent.
Merci Martin Buxan, merci à vous et bonne chance à LN24 qui, je le rappelle, se lance en Belgique lundi 2 septembre prochain. À bientôt.
Merci Steven, à bientôt.
http://atelier.rfi.fr.
Je suis là pour exprimer mon indignation. C'est pas normal qu'un journaliste soit emprisonné. Dans les autres pays, ça n'existe pas. Pourquoi en Guinée? Alors nous aussi, on veut mettre fin à ça. Il faut que ça s'arrête. Ça fait très mal. On en a marre.
En Guinée, les journalistes de la presse privée sont mobilisés alors que plusieurs d'entre eux ont été convoqués ces dernières semaines par les pouvoirs publics. Lundi, des dizaines de professionnels de l'information se sont rassemblés devant le siège de la Haute Autorité de la Communication. Ils dénoncent le harcèlement de l'État sur les médias privés, mais aussi le silence de l'organe de régulation des médias en Guinée face à cette situation. Le Rwanda et l'Ouganda se sont quant à eux mis d'accord pour débloquer des sites d'information financés par les États qui avaient été rendus inaccessibles d'un pays à l'autre. Cette décision suit la signature d'un accord de paix en Angola entre les présidents Kagame et Museveni. On peut donc maintenant lire le site du quotidien rwandais New Times depuis Kampala ou les sites ougandais The New Vision et Daily Monitor depuis Kigali.
L'atelier des médias, tous les samedis sur RFI.
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de collapsologie, un néologisme pour qualifier l'effondrement du monde tel que nous le connaissons, sur fond de dérèglement climatique et d'exploitation à outrance des ressources naturelles. Partant de ce constat, la collapsologie invite à réfléchir aux possibles solutions. C'est sur ces questions qu'un magazine trimestriel s'est lancé en France, et c'est vous, Yvan Saint-Jour, qui l'avez initié. Bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas le premier magazine que vous lancez. Avant cela, vous avez fondé la Maison écologique et Kaizen, qui existe encore. Votre dernier né, Yggdrasil, a-t-il une saveur particulière?
Oui, c'est sûr qu'il a une saveur très particulière. J'avais rangé mon ordinateur et je pensais qu'après Kaizen, l'aventure des magazines se terminait pour moi. Voilà, je passais à autre chose. Voilà, finalement, poussé par différentes choses, je suis revenu à mes premiers amours. Et voilà, et avec Pablo Servigne et puis un ami, Denis Chalumeau, on s'est dit qu'on allait sortir un magazine qui nous semblait être plus qu'essentiel, qui allait traiter des questions de l'effondrement et pour surtout essayer de traverser ça, puisque pour nous, l'effondrement a déjà commencé et ne va faire que s'accélérer.
Vous avez parlé de Pablo Servigne, qui est chercheur et conférencier, qui revendique la paternité du concept de collapsologie. C'était important de l'avoir à vos côtés pour lancer ce magazine?
Ouais, on s'est rencontrés avec Pablo en 2015. Il aimait beaucoup ce que je faisais, à la fois avec la Maison écologique et puis Kaizen, mais surtout avec les petites éditions Hippipip, édition sur l'autonomie. Et moi, j'avais entendu beaucoup parler de lui par des amis, mais j'avais pas lu encore son bouquin, donc il me l'a donné et je l'ai lu dans la foulée. Ça a été un gros choc parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses que j'avais juste dessinées sur tout un tas de problématiques. J'étais assez féru de toutes les questions climatiques et les questions énergétiques et donc les questions du bâtiment aussi, bien sûr. Mais là, la vision systémique qu'il apportait avec Raphaël Stevens, c'était quelque chose, pour moi, pour le coup, de nouveau. Et tout m'est apparu extrêmement clair. Et voilà, donc je suis un peu tombé de ma chaise pendant quelques temps. J'ai eu du mal à me relever. Et quand j'ai eu l'idée d'un nouveau magazine, c'était un magazine plutôt sur l'autonomie, reprendre sa vie en main. Et c'était impossible pour moi que Pablo n'y participe pas. Donc je l'ai appelé. Et il a tout de suite sauté sur l'occasion. Et finalement, on a dessiné un autre magazine que ce qui devait être initialement. et c'est Yggdrasil qui est arrivé.
Et alors vous êtes dit que c'était le moment de le lancer, parce que bon, quand on lance un projet, notamment un projet média, on essaye de faire un business plan, on se pose la question de savoir s'il y a un public pour ce magazine, ça vous paraissait évident?
Enfin, ça me paraissait hors propos en fait de réfléchir purement business, quoi. C'est-à-dire que le business plan, il a été fait, ça c'est sûr et certain. J'ai fait quelque chose, je me suis entouré pour être quand même, pour pas prendre un gros bouillon, mais au moins, au pire, que ça soit une opération blanche, si jamais ça marchait pas du tout. Et mais on savait, voilà, avec Pablo, que c'était quelque chose qui était attendu. Les gens, une fois qu'ils ont pris connaissance de l'effondrement, il y a un effondrement personnel, intérieur, qui se fait de toute manière, à différents stades. Et puis ensuite, il faut continuer à vivre, puisqu'on n'est pas sur une autre planète et qu'on n'est que sur celle-là, et donc on ne va pas en bouger. Donc on va continuer à vivre, mais du coup, quelle saveur ça va prendre cette vie-là? Donc on savait qu'on avait un public très difficile et compliqué, même bête, d'essayer de le chiffrer, mais en tout cas on savait qu'il y avait un public, et ça s'est vraiment concrétisé au travers du crowdfunding qu'on a fait avec KissKissBankBank, qui a très bien fonctionné.
Alors justement, donc Yggdrasil, c'est un MOOC, mi-livre, mi-magazine, sans publicité. Une campagne de financement participatif, vous en parliez, plus de 160 000 euros alors que vous en escomptiez 50 000. 3100 personnes au total ont mis la main à la poche pour vous soutenir. Et le résultat, c'est 144 pages, un tirage du premier numéro à 50 000 exemplaires, un coût en kiosque de 12 euros. Et ce magazine a ce site particulier qu'il a une durée de vie de 12 numéros, 3 ans. Pourquoi?
La durée de vie, c'était l'idée, c'était de faire un magazine qui à la fois n'avait pas une volonté de durée de vie hors limite, donc avec, on va dire, un esprit plutôt capitaliste entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs, donc de croissance infinie. On avait envie de le terminer, on avait envie que ça soit aussi, que ça fonctionne un peu finalement comme un organisme vivant. Il a une naissance, une croissance, sa belle vie, il fait des enfants, et puis ensuite il vieillit et il meurt. Donc c'est vraiment comme ça qu'on voit Yggdrasil. Il y a 12 numéros, donc il n'y en aura pas plus. Et l'idée de la société qu'on a créée, c'est une fois que tout est bien payé, qu'on n'a plus rien sur le carreau, etc. tout ce qui nous restera comme dividende, puisque c'est une société classique, hein, c'est une SAS, tout ce qui restera comme dividende sera redistribué à des associations qu'on a envie de soutenir parce qu'elles font un bon boulot autour de l'effondrement.
Et au fait, Yggdrasil, ça veut dire quoi?
Yggdrasil, c'est l'arbre monde ou l'arbre cosmique dans la mythologie nordique. C'est celui auquel Odin s'est fait suspendre pendant quelques jours. Donc c'est un arbre qui a survécu à Ragnarok, à l'espèce d'effondrement final qui ressemble à un apocalypse dans la mythologie. Et ce qui nous plaisait beaucoup dans ce nom, c'est que d'abord il est imprononçable, il est difficile à écrire.
Donc ça s'écrit Yggdrasil.
Voilà, c'est ça. C'était surtout cette dynamique, cette symbolique de l'arbre monde qu'on retrouve dans quasiment toutes les cultures sur la planète. C'est-à-dire un arbre qui relie la Terre, voire les tréfonds de la Terre, au cosmos. Et on a envie de se situer là. C'est-à-dire que les articles qu'on écrit et qu'on va écrire sont vraiment à la fois des articles très ancrés, où il y a du pratico-pratique, et à la fois de la théorie, des débats d'idées, et puis bien entendu plutôt une vision plus ouverte, plus spirituelle, philosophique, s'ouvrir sur d'autres choses. Voilà, donc le symbole de cet arbre monde nous correspondait tout à fait.
Vous venez de résumer un petit peu ce qu'il y a dans le manifeste qui débute le premier numéro d'Yggdrasil. Au programme, dans ce premier numéro, toujours un petit manuel de désobéissance civile, une interview d'Edgar Morin, quelques explications pour gérer son stress face au risque d'effondrement, ou encore une fiche pratique très détaillée sur la récupération d'eau de pluie pour s'en servir dans sa maison. Quelle équipe éditoriale vous avez rassemblée derrière Yggdrasil ?
Eh ben, l'idée, c'était déjà d'avoir des personnes autour de nous qui étaient motivées et qui étaient entre guillemets acquises à la notion d'effondrement, qu'on n'ait pas de dissonance à l'intérieur du magazine. Et c'est de regrouper toutes les bonnes énergies qui nous semblent nécessaires pour traverser l'effondrement. Si on part du principe que l'effondrement est inéluctable, il a commencé de toute manière, ça c'est sûr, on le voit sur tout un tas de domaines, mais si on part du principe qu'il est inéluctable et qu'il va être très dur, pour autant, vivre l'effondrement, c'est quelque chose, on peut encore choisir cette direction. On peut choisir le comment on va le vivre et le comment on aimerait que ça soit après. Et c'est comme ça qu'on a constitué l'équipe avec des gens un peu de tous horizons, mais qui ont à cœur, dans leur spécialité, de prendre cette notion d'effondrement comme claire et nette.
Yggdrasil pourra-t-il ou s'intéresse-t-il à l'actualité et la politique, par exemple ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que détailler ce qui se passe dans la politique et le critiquer ou non, ça nous intéresse pas, c'est pas l'objet d'Yggdrasil. En plus, c'est un trimestriel, donc on peut pas coller à de l'actu. Pour autant, dans le numéro 2 qui est en cours de bouclage actuellement, qui sortira fin septembre, on a un article de Pablo Servigne, justement, sur il faut politiser la question, parce que il faut il faut quand même s'emparer, il faut faire en sorte que l'effondrement soit amené, puisque c'est quand même une question juste cruciale et clé, soit amené sur la chose publique, quoi. Voilà.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est dans la page qui contient l'ours de votre magazine, donc les mentions légales et le nom des personnes qui ont participé à ce premier numéro. Vous expliquez avoir rencontré une difficulté majeure, c'est l'approvisionnement en papier recyclé de qualité pour produire ce premier numéro, un approvisionnement qui a été impossible en France, puisque c'est d'Autriche que vient le papier du premier numéro d'Yggdrasil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ?
Oui, le papier, moi, c'est quelque chose qui est assez organique chez moi, et donc j'avais pris les devants et j'avais déjà choisi deux papiers faits en France, à l'usine, dans une usine au Mans. Donc tout était calé, toutes les distances étaient mesurées pour qu'on ait le moins d'impact possible d'un point de vue environnemental, qu'il faut être un peu cohérent aussi. Le fait est que l'usine de Arjo Wiggins, qui est un des plus gros papetiers d'Europe et le plus gros papetier français, a fermé ses portes de façon un peu subite en avril. Du coup, on s'est retrouvé le bec dans l'eau, sans papier français, et il n'y avait pas d'autres fournisseurs aujourd'hui en France qui pouvaient faire des bobines en offset, puisque comme on est imprimé sur un tirage assez important, il faut qu'on passe sur des machines assez grosses. Et on a cherché partout, et il y avait trois papetiers en mesure de nous fournir le papier qui nous convenait, qui était chacun à 1000 km de notre imprimeur. Ça nous embêtait un peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, on a choisi un des trois qui s'avère être, c'est la compensation, qui a reçu un label il y a quelques années comme étant la papeterie la plus écologique du monde. Voilà, avec zéro déchet, 100% d'énergie fabriquée sur le site, une qualité de l'eau irréprochable au recyclage, etc. Donc voilà, on a au moins ça en compensation.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en plein bouclage du numéro 2 d'Yggdrasil. Que pourra-t-on y lire ? Et surtout, y aura-t-il un titre cette fois-ci à la une de ce magazine ? Alors, parce que le premier numéro n'avait pas de titre. Est-ce que vous allez continuer voilà. ainsi pour les 12 numéros?
Ben, on sait pas. En fait, on se donne la possibilité de changer à chaque fois. En tout cas, pour le numéro 2, on a gardé cette tonalité-là. C'est un dessin qui fait la couverture. Là, c'est plus un illustrateur botanique. C'était Jacques Joussons pour le premier. Mais là, c'est Tom Tirabosco, qui est dessinateur de bande dessinée, qui a fait la couverture. Et il y a juste le titre du magazine, et puis la baseline, effondrement et renouveau, et le numéro 2. C'est tout. Et à l'intérieur, on va trouver une superbe interview de David Maniz et Aurélie Verdon, sa compagne. Voilà, qui est un des spécialistes de la survie en France, qui est faite par grande interview faite par Pablo Servigne. Il y a aussi un entretien assez exceptionnel d'Alexandre Boisson et Stéphane Linou. Alexandre Boisson, c'est un ancien chef de la police, et Stéphane Linou, lui, est un ancien conseiller général, qui explique, eux, leur vision de l'effondrement et de ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui dans les services publics pour essayer de compenser, d'amortir le choc le plus possible. Donc, ça nous met dans une espèce de réel politique très clair et net, et face à tout plein de choses. Et puis après, il y a les articles. Il y a un article sur Extinction Rebellion qu'on avait envie de présenter pour montrer les actions qui sont possibles aujourd'hui, actions non violentes, puisque c'est notre axe de combat aussi. Et puis les articles plutôt pratico-pratiques autour des plantes sauvages, donc là c'est l'aubépine qui est présentée, et puis le photovoltaïque pour la partie énergétique, et encore plein d'autres choses avec une histoire absolument incroyable racontée par Kim Pash sur sa rencontre avec un grizzly dans le Canada, et tout plein de choses encore.
Merci beaucoup Yvan Saint-Jour, je rappelle Yggdrasil, le magazine, disponible chez tous les bons kiosquiers, et le site internet c'est Yggdrasil, donc Yggdrasil-mag.com. À bientôt.
Merci beaucoup.
L'atelier des médias.
On vient de parler de collapsologie, et il est vrai que les voyants concernant la santé de notre planète sont au rouge. Pour preuve, un de nos poumons verts, l'Amazonie, brûle. Mais en Afrique aussi, les forêts brûlent, comme en République démocratique du Congo, où Mondoblog Audio nous emmène cette semaine.
Mon pays, la République démocratique du Congo, qui possède la moitié des forêts et des ressources en eau de l'Afrique, est naturellement surveillé de près par les ONG qui défendent l'environnement. Dans ce contexte, pour la RDC, l'exploitation raisonnée et efficace des ressources, ce n'est pas seulement une nécessité économique, mais une obligation morale. Il est essentiel que la RDC s'engage dans la voie de l'économie verte. L'ONG Greenpeace est très attentive à la préservation des ressources naturelles sur le continent africain. Par exemple, elle publie chaque année une étude sur la préservation des forêts en Afrique. L'objectif est que les forêts africaines ne connaissent pas le sort des forêts indonésiennes et malaisiennes. La seule solution, c'est d'adopter des politiques zéro déforestation. Notre continent ne représente encore qu'un faible pourcentage de la production d'huile de palme ou de caoutchouc au niveau mondial. Mais aujourd'hui, on assiste à une véritable ruée sur les forêts africaines. Des dizaines de milliers d'hectares de forêts sont convertis en plantations de palmiers à huile et d'EVA, avec de lourdes conséquences sur le réchauffement climatique. C'est triste, mais l'Afrique est devenue un nouveau terrain de jeu pour les industriels. Et cela concerne bien sûr le bassin du Congo, l'une des plus grandes forêts tropicales du monde et le quatrième puits de carbone le plus important de la planète. Aujourd'hui, il est largement temps de nous questionner sur notre comportement face à la Terre et sur notre responsabilité envers elle. Les États, mais aussi les particuliers, doivent faire leur maximum pour éviter une catastrophe planétaire, voire la disparition de toute forme de vie sur Terre. C'est l'un des enjeux majeurs de ce 21e siècle. Alors, qu'attend-on pour agir?
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur et journaliste congolais Stanislas Tamboué du blog RD Congo Réalité. C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Simon De Creuse était à la réalisation, Camille Deloche à la baguette du Monde Blog Audio. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous parlerai la semaine prochaine depuis Perpignan, dans le sud de la France. Comme chaque année, s'y tiendra le Festival international de photojournalisme Visa pour l'image. D'ici là, partagez notre podcast où nous vous proposons nos émissions en version longue. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.